Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Patrick Leyaric, député européen PCF et directeur de l'Humanité. Vous êtes notre invité à l'occasion de la fête de l'UMA qui se déroule les 14, 15 et 16 septembre. Bonsoir.
Bonsoir.
Patrick Leyaric, première question. Emmanuel Macron a chuté dans les sondages. Il est plus impopulaire encore que François Hollande après 15 mois de mandat. Comment analysez-vous cette mauvaise séquence pour le chef de l'État ? À quoi attribuez-vous cette désaffection des Français ?
Il n'y a pas de majorité de nos concitoyens qui adhèrent à un projet ultralibéral, à un projet de casse de nos conquis sociaux. Et comme M. Macron est dans ce projet-là, il veut poursuivre ce projet-là, évidemment, il est non seulement très fragilisé, mais on s'apercevra peut-être qu'il peut tomber comme un château de cartes.
Vous pensez que toute sa politique repose sur un manque d'adhésion à la base lors de l'élection présidentielle ?
À l'élection présidentielle, il y a eu un concours de circonstances qui l'a placé en tête, qui l'a placé en situation d'être président au premier tour. Puis au second tour, c'est un rejet du Front National qui a conduit à le soutenir.
Avec mais tout de même une majorité ensuite à l'Assemblée nationale.
Une majorité telle que sont nos institutions. Mais si c'était un système à la proportionnelle, rien ne dit qu'il avait la majorité, parce que quand on regarde la part des inscrits qui se sont prononcés pour ces députés, c'est encore plus bas que la part des inscrits qui se sont prononcés pour lui, qui est déjà très basse. Et donc, il n'a pas de base sociale réelle. Il y a eu un phénomène un peu un mélange d'illusions et puis de doutes ou de l'idée « essayons autre chose, essayons du nouveau ». Mais quand le maçon est au pied du mur, on voit bien que c'est le monde ancien, très ancien même, qui est en train de remonter à la surface avec cette destruction aujourd'hui des conquis sociaux, avec ce refus de la tradition du droit d'asile en France, avec une présidence qui concentre tous les pouvoirs, comme l'a révélé cette fameuse affaire Benalla. Mais ça, l'affaire Benalla est un épiphénomène dans l'ensemble de ce qu'il veut faire. Lui, ce qu'il veut faire, c'est cumuler l'ensemble des pouvoirs, remplacer même le Premier ministre, se passer du Parlement, qui n'est qu'une chambre d'enregistrement pour lui.
Vous vous inquiétez de la réforme des institutions qu'il souhaite conduire ?
Oui, bien sûr, parce que c'est le renforcement d'un présidentialisme un peu monarchique, c'est l'abaissement du Parlement, c'est la réduction du nombre de parlementaires, au nom d'une thèse assez démagogique comme quoi ça coûte trop cher, mais à combien chiffre-t-on la non-démocratie dans un pays ? À combien chiffre-t-on un pouvoir autoritaire qui prend des décisions qui va à l'encontre du bien commun ?
Patrick Leyaric, comment interprétez-vous la démission de Nicolas Hulot, remplacé par François de Rugy ?
Nicolas Hulot, il a tiré les conclusions, comme il l'a expliqué, du fait que une politique ultralibérale, un modèle capitaliste tel dominé par la finance aujourd'hui et de plus en plus d'oligopoles mondiaux, est incompatible avec la nécessité d'une transition environnementale. On en a de mains exemples. On ne peut pas dire qu'on va réorienter l'agriculture en favorisant des grandes fermes où il y aura ici 1000 vaches, là 2000 porcs et ici 17 500 veaux. On voit bien que ceci est incompatible avec une agriculture paysanne garante de la qualité alimentaire et de la santé des citoyens. Et donc, et on peut prendre d'autres exemples où on ne veut pas trancher ou en tout cas on a une orientation qui vise à laisser faire. Dans le débat sur la SNCF, par exemple, on n'a pas voulu écouter les organisations syndicales, mais les organisations syndicales portent un débat d'intérêt général. On ne peut pas dire d'un côté qu'on fait la transition écologique, réduire le fret sur rail, réduire le transport voyageur au bénéfice de cars ou de je ne sais. Donc on voit bien les contradictions qui éclatent au grand jour.
Et en même temps, Nicolas Hulot a été utile. On imagine qu'il a beaucoup pesé dans la décision d'Emmanuel Macron de ne pas mener à terme le projet de Notre-Dame-des-Landes.
Oui, vraisemblablement, mais Notre-Dame-des-Landes, n'importe quel gouvernement, je crois, aurait dû parvenir à cette conclusion parce que ça devenait ingérable pour tout le monde, pour les partisans ou les opposants de Notre-Dame-des-Landes, pour les paysans qui étaient autour. Donc, il fallait une issue convenable, mais le débat, là aussi, porte sur nos modes de transport. Est-ce qu'on va pouvoir continuer, comme aujourd'hui, à mettre des grands porte-conteneurs sur les mers et de plus en plus d'avions dans les airs.
Nicolas Hulot avait dénoncé le rôle des lobbies au sein de l'Élysée, notamment celui des chasseurs. Ce lobby des chasseurs s'est réjoui de l'arrivée au gouvernement de François de Rugy. Quelle est l'influence des lobbies sur les décideurs en France ?
Moi, personnellement, je n'aime pas trop le mot lobby parce que, en fait, les lobbies ne sont que les mandataires, ne sont que les cadres et les porte-paroles des grands groupes industriels et financiers et de quelques groupes ici ou là qui veulent influer sur le cours des choses au détriment du bien-être humain et de la planète. Donc, ce qu'il y a derrière ce mot « lobby », c'est bien ces puissances financières industrielles numérique ou...
Vous les croisez au Parlement européen,
c'est... Moi, pas beaucoup, parce que...
Ils vous connaissent, en tout cas.
Sans doute, ils doivent pas... Des gens comme moi ne sont pas très aimés de là, mais...
Vous ne leur parlez pas, mais en tout cas, vous les croisez.
Franchement, non. Mais je sais qu'il y en a beaucoup, de toutes sortes, et pour les plus mauvaises raisons. Mais ce sont les mandataires. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes en train de discuter d'une directive européenne qui vise à arrêter ce pillage par les grands groupes du numérique nord-américain de nos créations culturelles, des créations journalistiques. Là, on les voit à l'œuvre puisqu'ils appellent, ils nous insultent, ils balancent. Par exemple, on a eu 40 000 mails pour que ça ne se fasse pas. Donc oui, ceci existe, mais ils ne sont pas vus, ils sont pas venus me voir de visu pour me dire en face ce qu'ils avaient à dire.
On va parler de l'Union européenne tout à l'heure, mais je reste dans le cadre français pour l'instant. Pour réduire les dépenses de l'assurance maladie, le gouvernement envisage de faire payer aux employeurs les indemnités journalières versées à leurs salariés en arrêt maladie de moins de 8 jours. Comment vous expliquez ce projet du gouvernement ?
C'est la tentative permanente de détruire peu à peu l'État social et de réduire les moyens de la sécurité sociale. Ça, c'est une première question. Mais il y a une question beaucoup plus fondamentale que celle-là. C'est que si on en est à ce point, et on nous dit que les arrêts de travail aujourd'hui augmentent, ont augmenté en moyenne d'un jour dans l'année passée, ça coûterait aux alentours de 10 milliards d'euros. Pourquoi ne se pose-t-on pas la question de la condition de vie des travailleuses et des travailleurs ? Les questions des maladies professionnelles, les questions des burn-out, les questions de l'épuisement. Pourquoi ne se pose-t-on pas cette question ? Parce que c'est ça la question fondamentale. Comment on intéresse le salarié à son travail ? Comment on le fait d'une manière ou d'une autre ? Participer à l'élaboration d'un projet stratégique ou d'un projet commun. Et évidemment, poser cette question-là, c'est aussi poser une question d'ordre anthropologique qui est celle de la condition des ouvrières et des ouvriers, la caissière de supermarché, l'ouvrière qui est dans un abattoir à tel ou tel endroit.
L'employé de la poste, par exemple, qui a changé de métier en quelques années.
Qui change, à qui on a demandé, comme à ceux de France Télécom précédemment. Le cadre qui est en permanence sous pression, notamment le numérique aujourd'hui permet cela. Donc, c'est ces questions fondamentales qu'il faudrait poser. Et personne ne la pose, ni le gouvernement, ni évidemment le patronat.
Les pensions de retraite augmenteront moins vite que l'inflation, ce qui fait dire à certains responsables que les retraités sont maltraités par ce gouvernement. C'est également votre avis ?
Oui, ils sont très maltraités. Ils sont même considérés aujourd'hui comme une masse de réserve pour transférer de l'argent que la société leur doit. Ceux qui sont à la retraite aujourd'hui, ils ont cotisé pour cette retraite. Donc, c'est leur salaire différé, en fait, qu'on est en train de le voler. Pourquoi on est en train de le voler? Pour le transférer aux puissances d'argent. Par exemple, quand on va transformer ce qu'on appelle le CICE pour 22 milliards en abaissement de ce qu'on appelle les cotisations patronales, eh bien, non seulement on va prendre cet argent de la poche des retraités, de l'argent qu'on leur doit dans la poche de ces gens, et par-dessus le marché, je ne sais pas si on a été attentif à ça, le Premier ministre a dit dans une interview dans le journal du dimanche, il y a deux dimanches de cela, il a dit « ça ne réduira pas le déficit de la France parce que le fait qu'on va donner ces 22 milliards va augmenter le déficit de la France. » Donc, leur problème n'est pas le déficit et la dette de la France, leur problème est de servir le capital.
Patrick Le Garic, Emmanuel Macron va mener une concertation sur une réforme des retraites, encore une, qui serait adoptée l'an prochain. Lors de sa campagne électorale, il a promis d'instaurer un système unique par points. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, c'est une contre-réforme, c'est une contre-révolution qui abat un élément de plus issu du Conseil national de la Résistance, du Front populaire et même des réflexions qui ont eu lieu avant. Parce que la retraite par points veut dire exactement qu'on va abaisser le niveau des pensions de retraite de quasiment tout le monde et même on va, compte tenu de la durée de scolarisation des jeunes d'aujourd'hui, on va les mettre dans une situation où l'âge de départ à la retraite, peut-être pour eux, sera aux alentours de 67-68 ans.
Alors, autre sujet d'actualité, la rentrée scolaire. Le gouvernement a décidé d'étendre le dispositif de dédoublement des classes en CP et CE1. Vous qui êtes élu à Aubervilliers, est-ce que ça fonctionne bien ou bien c'est une réforme qui a été menée sans véritable moyen ?
C'est une bonne décision. Parce qu'il y a des zones dans nos villes où il faut permettre aux enseignants de faire leur travail dans de bonnes conditions et aux petits-enfants d'acquérir un certain nombre de connaissances. Et c'est vrai que de ce point de vue, c'est une bonne décision. Mais il n'y a pas eu suffisamment de concertation avec les municipalités. Et surtout, c'est vrai, il y a insuffisamment de moyens, il y a insuffisamment d'enseignants. Et puis, il y a un problème de locaux qui va se poser petit à petit. Donc, bonne décision, mais il ne faut pas réduire les moyens des collectivités territoriales ni les moyens de l'éducation nationale pour la mettre convenablement en œuvre.
Dans l'UMA Hebdo que vous dirigez, vous avez publié un dossier très intéressant sur ces écoles des quartiers populaires qui ne sont pas perdues par la République, puisqu'il y a eu un livre qui s'appelait « Les quartiers perdus de la République ». Vous avez titré « Ces quartiers où l'école fait le job ». Vous avez le sentiment que certains responsables politiques, certains leaders d'opinion stigmatisent ces écoles de banlieue ?
Oui, parce qu'ils stigmatisent les quartiers eux-mêmes en faisant des descriptions qui ne correspondent pas aux réalités. Les quartiers n'est pas ce qu'on est en train de raconter. Et beaucoup sont dans cette situation parce que difficile. Pourquoi ? Parce qu'il y a un taux de chômage, quelquefois, de 50 à 55%. Mais il y a dans ces quartiers des parents, des mamans, des enseignants extrêmement courageux qui essayent de créer les conditions de la réussite des enfants. Et d'ailleurs, dans ces quartiers, et c'est le cas à Aubervilliers, c'est le cas à La Courneuve, c'est le cas à Saint-Denis, c'est le cas à Stein. Vous avez des jeunes qui, dans la culture, dans le sport, dans un certain nombre de métiers aujourd'hui hautement qualifiés, qui en sortent et qui sont extrêmement utiles à l'ensemble de la société. Donc, ce n'est pas tout noir, comme on dit, c'est loin d'être blanc, mais ce n'est pas tout noir. Il y a la volonté de s'en sortir.
Il y a notamment la volonté aussi des enseignants de faire leur travail.
Les enseignants se battent dans des conditions difficiles, courageusement, mais sont insuffisamment rémunérés aujourd'hui pour le travail qu'ils doivent faire et le temps qu'ils doivent passer.
Patrick Le Garic, vous êtes un député européen très actif à Strasbourg, à Bruxelles. L'année prochaine sera marquée par les élections européennes. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué lors de cette mandature ? Chaque député a ses spécialités. Vous, sur quel sujet avez-vous travaillé principalement ?
Il y a beaucoup de questions. Moi, dans la commission de l'emploi et des affaires sociales, vous vous souvenez de ça, je me suis battu comme un lion pour qu'on maintienne le programme d'aide aux plus démunis que nous avons sauvé in extremis et qui risque d'être remis en cause dans quelques mois si on y prend garde. Parce qu'il risque d'y avoir un nouveau système, mais qui visera à baisser les crédits si on ne fait pas attention. Je me suis beaucoup battu pour les jeunes. Il y a tous les systèmes de Erasmus et Erasmus+, qui sont positifs. Il faut continuer à développer ça, à mettre des crédits.
Ça va se développer notamment avec les apprentis.
Et alors, il y a un projet pour l'apprentissage. Il faut regarder, il y a des choses intéressantes autour de ça. Un jeune d'ici qui va faire son apprentissage dans une famille et une usine ou un bureau en Allemagne, ça peut être intéressant. Ou en Espagne, tout ça, cet échange, tout ceci peut être intéressant. Il y a ce projet de garantie jeunesse. Moi, je souhaitais, vous vous rappelez, je souhaitais qu'on mette en place une allocation pour chaque jeune de 18 à 25 ans, combiné entre des crédits européens, des crédits nationaux, voire des crédits régionaux, mais qui combine à la fois accès aux études, accès à la formation la plus poussée pour celui qui n'est plus dans les études, et la question de création d'une situation où on sécurise, où on garantit un emploi intéressant avec le retour à des périodes de formation et l'accès au logement. Mais il y a cette garantie jeunesse, il y a de l'argent qui est mis, il y a des expériences qui se font. Je suis, moi, très content de ce qui se passe autour de Pleine Commune et à Aubervilliers, qui héberge la mission locale pour l'emploi d'Aubervilliers. Ce dont je suis content, et qui est très surprenant, peut-être pour certains, mais 57% des jeunes qui bénéficient de ce qu'on appelle la garantie jeunesse dans les missions locales à Aubervilliers trouvent un travail en contrat à durée indéterminée. Ça, c'est assez intéressant. Après, il faut regarder la qualité du travail.
Il s'agit d'aides européennes ?
Pour beaucoup, c'est une combinaison d'aides européennes et d'aides nationales, parce qu'il y a toujours dans les circuits ces combinaisons. Et ça, c'est très intéressant.
Alors, vous vous êtes aussi beaucoup battu contre les traités commerciaux défavorables à un pays comme la France.
Oui, on a modifié substantiellement, il n'est pas bon, hein, mais on a modifié substantiellement le traité de libre-échange avec le Canada. Notamment, on a commencé à mener un débat autour d'un système qui est un système de tribunal arbitral qui donne un pouvoir considérable aux sociétés multinationales contre les États. Et d'ailleurs, dans un accord qui est aujourd'hui en discussion pour de libre-échange avec le Japon, ils ont dû inclure à la fois cette modification, mais aussi inclure des normes sanitaires et sociales. Je ne dis pas que ça va se réaliser, je ne dis pas que c'est parfait, je ne voterai pas ce texte en l'état, mais au moins il y a eu un débat et on a fait avancer un certain nombre de choses. Si le mouvement, il pousse, eh bien on aura ce qu'on a eu par exemple pour le glyphosate. La Commission nous avait proposé de maintenir encore pendant 15 ans renouvelable et là nous avons obtenu 3 ans non renouvelable. Alors le gouvernement français, il est à 5 ans aujourd'hui non renouvelable, parce que dans les débats qu'il y a aujourd'hui, il y a une petite nuance. Ce n'est pas pareil 5 ans renouvelable et 5 ans où, au terme des 5 ans, on arrête. Il y a une petite nuance extrêmement importante.
L'Union européenne, c'est véritablement un lieu de débat sur les questions écologiques.
Dans l'enceinte du Parlement européen, il y a un débat et c'est le lieu, le niveau, comme disent certains, le lieu en tout cas, c'est un continent là qui, s'il prenait des décisions nettes, claires et mettait en œuvre des projets de transition environnementale, je pense que ça serait susceptible de tirer l'ensemble d'autres pays, d'autres continents, le monde vers le haut, et on sait que c'est urgent.
Patrick Le Yarrick, vous êtes notre invité à l'occasion de la fête de l'UMA qui se déroule les 14, 15 et 16 septembre. Je rappelle que vous êtes député européen du Parti communiste et directeur de l'Humanité. On se retrouve dans quelques instants.
Pluriel, animé par Loïc Barrière.
Retour sur le plateau de Pluriel, nous sommes toujours en compagnie de Patrick Le Yarrick, député européen PCF, directeur de l'Humanité. Vous êtes notre invité à l'occasion de la fête de l'humain qui se déroule les 14, 15 et 16 septembre. Avant la pause, on a évoqué votre travail au sein de l'Union européenne. Quels sont les enjeux de ces élections européennes de 2019 ?
Ils sont extrêmement lourds. Est important. Il faut bien mesurer la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Nous sommes dans une situation où jamais il y aurait besoin de tant de coopération, tant d'échanges, tant de mise en commun, et on assiste au contraire à la montée de haine, aux montées de rejet sur les réfugiés et les exilés. On assiste à la remise en cause des conclusions de la conférence sur le climat. On assiste à une militarisation partout. Et l'Union européenne est en train d'aujourd'hui d'inventer un dispositif visant à une armée commune, un système de défense. Nous n'y sommes pas encore, mais malheureusement, c'est la voie qui est tracée. Tout le monde voit bien aujourd'hui, surtout toute la planète, une des questions qui est posée, c'est le combat contre les inégalités et un autre partage des richesses visant à améliorer le pouvoir d'achat, à donner du travail. Et il y a cet enjeu où il faudrait faire participer les citoyennes et les citoyens à un projet de refonte totale de la construction européenne. Or, c'est le contraire qui se fait, c'est le recul de la démocratie. On n'écoute pas les gens. C'est sur ce fond-là qu'est en train de monter dans tous les pays européens cette terrible peste brune qui ne doit pas être prise à la légère.
Vous pensez...
Elle existe aujourd'hui...
Vous pensez à ce qui se passe en Hongrie, pensez aux manifestations
Italie,
anti-immigrés en Allemagne...
Pologne, Allemagne, les risques en Suède, Autriche, France, et ceci peut avoir des conséquences dramatiques si on y prend garde. Parce que ce nationalisme qui se développe, cette xénophobie, à partir de forces d'extrême droite, qui ne sont pas des forces unifiées, elles ne sont elles-mêmes pas d'accord entre elles, mais elles agissent aujourd'hui et elles s'organisent pour prendre partout le pouvoir, y compris avoir un rapport de force au Parlement européen qui conduirait peut-être à ce qui est demain l'élection de commissaires européens proto-fascistes, qui conduirait à avoir une autre commission européenne qui n'est déjà pas brillante, mais au moins ce sont des gens issus de partis républicains ou démocratiques, même si on met ça entre guillemets. Vous vous rendez compte si on avait des commissaires européens aujourd'hui qui... serait chargé de mettre en œuvre les traités européens, de garantir les traités européens, et qui seraient des fascistes.
Est-ce que vous avez l'impression que l'ensemble des Européens sont conscients de cette menace ? Vous parlez de peste brune, et évidemment, ça nous rappelle des années tragiques.
Tout à fait. Nous ne sommes pas... Ce n'est pas des situations comparables, mais nous ne sommes pas très loin des années 30. Sur fond de crise, sur fond de refus d'écouter les gens, sur fond d'austérité, sur fond d'inégalité, c'est-à-dire ceci est en train de monter sur la base d'un capitalisme de plus en plus rapace qui s'accapare les richesses et qui ne partage pas ces richesses.
C'est le libéralisme qui nourrit le fascisme.
Cet ultralibéralisme qui aggrave les inégalités, qui aujourd'hui conduit à la campagne idéologique qui l'accompagne, qui conduit à détourner les gens, non pas du combat contre l'existence des paradis fiscaux ou contre la rémunération du capital, mais contre son prochain, son voisin ou l'exilé.
Vous nous avez fait part des enjeux fondamentaux pour vous de ces élections européennes. Est-ce que vous ne redoutez pas finalement que ces élections européennes se transforment en une sorte de référendum anti ou pour les réfugiés ?
Non, parce qu'il faut Ça existe. Votre question est extrêmement pertinente. Ça peut exister. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qui s'est passé en Italie. Donc, votre question est très pertinente. Mais justement, toutes les forces démocratiques, toutes les personnalités qui ont au cœur l'humanisme et la démocratie doivent porter cette question. Parce que les réfugiés, au fond, contrairement à ce qui se dit, c'est quoi en France les entrées de personnes réfugiées ou exilées? C'est 60, 70 000 personnes. Il y a bien moins qui rentrent en Europe aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Autrement dit, ce débat est agité de manière artificielle pour faire un front politique dont certains croient se servir pour eux-mêmes, mais qui ne profitera qu'à l'extrême droite, qui ne profitera qu'à des nationalismes extrêmement dangereux.
Patrick Le Yarrick, est-ce que vous êtes surpris de voir émerger une gauche allemande anti-immigrée? Est-ce que vous pensez que ces thématiques qui sont associées à la droite ou à l'extrême droite peuvent susciter l'adhésion d'électeurs de gauche?
C'est-à-dire cette fraction de la gauche de Die Linke, qui se sépare de Die Linke, elle pose une question, une préoccupation qu'a l'ouvrier, qui est celle de savoir si le fait qu'il y ait des gens qui viennent d'ailleurs ne va pas faire pression sur les salaires. On ne peut pas écarter ce problème d'un revers de main. Mais l'expérience en France de vagues d'immigration dans nos industries automobiles, dans les mines, les travailleurs italiens, portugais, espagnols, polonais montrent que cette main-d'œuvre supplémentaire n'a pas conduit, évidemment c'est le désir du patronat, ça c'est certes, mais les organisations syndicales, les forces du mouvement progressiste ont conduit à ce que ces travailleurs ont été embauchés au salaire et aux conditions des conventions collectives françaises. Donc autant il faut parler de cette question, il faut être vigilant sur la question, autant ça ne doit pas conduire à la fermeture des frontières.
Sur la question de l'immigration et des réfugiés, on a vu ces navires comme l'Aquarius errer en Méditerranée avec des centaines de naufragés, de réfugiés à bord. Ces navires ont été obligés d'attendre que des pays acceptent qu'ils accostent chez eux. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour qu'on n'assiste plus à ce genre de spectacle?
Ce qu'il faudrait décider, c'est d'abord sécuriser le parcours des exilés, arrêter de faire en sorte que notre mer commune, la mer Méditerranée, soit souvent le tombeau pour un certain nombre de gens qui fuient la guerre, qui fuient la misère, qui veulent accéder à un petit bonheur de la vie. Quelquefois, ils y viennent avec l'espoir de retourner, mais malheureusement, ils ne retournent pas puisqu'ils meurent. Donc, il faut sécuriser les passages. D'autre part, il faudrait que tous les pays de l'Union européenne se mettent d'accord, sur la base d'ailleurs des recommandations du Parlement européen. C'est-à-dire, il faut un système de répartition des réfugiés dans chacun des pays.
Finalement, Salvini, il est en train de faire du chantage pour qu'on applique cette règle européenne.
Malheureusement, dans votre question, il y a un bout de la réponse et ce n'est pas totalement faux. C'est-à-dire, le forcing qu'il fait aboutit dans deux cas maintenant, de Aquarius 1 et Aquarius 2, aboutit au fait qu'on a dû discuter d'une répartition. Parce que le système, aujourd'hui, il fait que un peu l'Espagne, beaucoup la Grèce et beaucoup l'Italie accueillent, sont le premier accueil des réfugiés, supportent les réfugiés, ce qui n'est pas normal. Et il y a même pire que ça, c'est qu'un pays qui veut réexpédier les réfugiés, il les réexpédie dans le pays d'origine, c'est-à-dire l'Italie. Et donc, ce qui se passe là, et je le dis bien à contre-cœur, vous le comprenez bien, fait qu'il y a eu l'obligation cet été d'une discussion et il y a eu une sorte de répartition. Par exemple, dans Aquarius 2, depuis Malte, il y a une répartition des réfugiés.
Vous avez été sensible à l'appel de Jean-Claude Guessot, l'ancien ministre communiste qui dirige le port de Sète,
oui.
Et qui était prêt à accueillir des navires. Il n'a pas été écouté.
Non, pas plus que collectivité de Corse qui avait fait la même proposition. Ils ont eu raison d'ouvrir cette porte, entrouvrir cette porte, et c'est dommage que le gouvernement n'ait pas saisi l'occasion.
Patrick Le Yarrick, on est frappé aussi par l'impuissance de l'Europe au Proche-Orient. Israël a voté une loi affirmant être un État-nation du peuple juif. La colonisation se poursuit. Il y a eu aussi les tirs de ces derniers mois le long de la frontière de Gaza. Vous qui êtes au Parlement européen, c'est impossible aujourd'hui d'avoir une politique étrangère commune qui pourrait parler d'une seule voix face à Israël ?
Oui, nous avons l'équivalent d'une ministre des Affaires étrangères commune, mais il n'y a pas. Elle est à la fois vice-présidente de la Commission, mais elle est à la fois aussi associée au Conseil européen. Elle est donc dans les deux institutions. Et malheureusement, le Conseil européen, en matière de politique étrangère ou d'action internationale, ne parle pas d'une même voix. Et donc, ce qui est d'ailleurs assez curieux, c'est que des pays xénophobes comme la Pologne ou la Hongrie sont les meilleurs alliés du gouvernement israélien au sein du Conseil européen, au sein de la politique européenne. Et il y a, de la part de nombreux chefs d'État et de gouvernement, je pense, un manque de courage. Il faut appeler les choses par leur nom, parce que le droit international permettrait aujourd'hui à l'Union européenne, aux institutions européennes, de prendre l'initiative, et ils ont des atouts pour cela, notamment un accord de coopération qui conduit à avoir une coopération très renforcée, un partenariat commercial, même militaire, avec l'État d'Israël, et on pourrait utiliser l'article 2 de cet accord de partenariat pour dire à Israël, maintenant vous commencez à respecter le droit international. Malheureusement, l'Union européenne, qui n'est pas suivie de M. Trump, je ne peux pas dire ça, mais quand même, au lieu de mener le combat, elle laisse faire les États-Unis qui favorisent des décisions très, très négatives.
Alors, vous parlez des États-Unis, Patrick Le Yarrick. Comment interprétez-vous la décision des Américains de ne plus financer l'UNRWA, cette agence de l'ONU qui porte assistance aux réfugiés palestiniens?
Ça participe du fait d'anéantir le peuple palestinien, puisqu'ils ne vont plus financer des actions d'alimentation, de culture, d'éducation des enfants, et d'émancipation des femmes, notamment à Gaza. Moi, j'ai suivi ça de très près, puisque l'Union européenne participe à des financements ou des cofinancements. Donc, je me suis déplacé régulièrement à Gaza, en Cisjordanie, et je vois le travail de l'UNRWA et le propre travail des financements européens. On va perdre aujourd'hui beaucoup d'argent. On va acculer le peuple palestinien, notamment à Gaza, dans des difficultés encore plus grandes. Ils n'auront pas accès à la santé, ils n'auront pas à manger, il n'y aura pas l'éducation des enfants, et on va se plaindre demain qu'il y aura des terroristes. Mais on est en train de favoriser des terroristes. Et M. Trump veut aller plus loin. Il veut supprimer la notion de réfugié. Autrement dit, en supprimant la notion de réfugié, il est dans la droite ligne du gouvernement israélien qui n'a jamais voulu reconnaître cela, contrairement aux délibérations et aux résolutions de l'Organisation des Nations Unies, et donc il veut éliminer une partie du peuple palestinien lui-même.
Quand vous dites qu'il veut éliminer une partie du peuple palestinien, vous pensez que Trump veut mettre fin aux accords d'Oslo ?
D'abord, les accords d'Oslo ne sont plus pertinents, mais c'est sûr que lui, il ne veut plus en parler de cela. Et il est totalement à l'opposé du dernier discours du vice-président américain que M. Obama avait beaucoup suggéré, et à l'opposé du discours du Caire de M. Obama, même si M. Obama et son équipe n'ont pas non plus réussi, pu ou voulu aller aussi loin qu'il aurait fallu aller pour reconnaître l'État palestinien.
Même si Netanyahou n'aimait pas Barack Obama.
Ah non, pas du tout, il n'aimait pas Barack Obama, il a été très dur avec eux. Mais en tout cas, on n'a pas pu, même dans cette période-là, faire respecter le droit international et faire reconnaître la Palestine. Et la question de la reconnaissance de l'État palestinien, qui ne coûte pas d'argent, serait un acte politique extrêmement important de gouvernement comme celui de la France, celui de la Grande-Bretagne, qui est pays mandataire quand même, peut-être de l'Allemagne et d'autres, et de l'Union européenne elle-même.
Patrick Le Yarrick, parlons à présent de la fête de l'UMA, les 14, 15 et 16 septembre. Ça a lieu chaque année à la mi-septembre à La Courneuve. Qui sont les artistes que vous avez invités cette année? Vous pouvez nous présenter un peu le programme?
Le programme est très vaste. Dans les grands artistes de la grande scène, on aura notamment NTM qui vont faire leur concert dans leur pays, puisqu'ils ont commencé en Seine-Saint-Denis et ils sont originaires de Seine-Saint-Denis. On aura Bernard Lavillier, on aura Julien Clerc, on aura une multitude de groupes qui sont sur les programmes que nous distribuons partout, c'est-à-dire il y a là une variété dans les concerts, une variété culturelle, il y a un espace du livre, il y a un village du monde extrêmement important où on va discuter de l'état de la planète et peut-être décider de combats communs, notamment sur la paix, notamment sur la reconnaissance de l'État palestinien, notamment sur le soutien au peuple kurde. On a un village de l'économie sociale et solidaire. Donc la fête de l'humanité, c'est cette diversité-là et elle est ouverte à chacune et chacun. Je répète, je ne cesserai de le répéter, quelles que soient ses opinions, quels que soient ses votes, là, c'est un lieu de fraternité pour faire, on se détend ensemble, on fait fraternité commune et évidemment, on essaye de faire société commune.
Qu'est-ce que ça représente, la fête de l'UMA? C'est vraiment une spécificité française.
Oui, c'est d'ailleurs, je prendrai peut-être dans les prochaines semaines une initiative, je pense à ça depuis un petit moment. Elle devrait être reconnue comme patrimoine culturel de l'UNESCO.
Johnny Hallyday y a chanté, par
oui,
exemple,
oui,
qui était un monument de la chanson française.
Mireille Mathieu, de multitude, tous les grands artistes, qu'ils soient chanteurs, musiciens,
Jacques
peintres.
Higelin, décédé récemment.
Tout à fait, d'ailleurs nous allons lui rendre hommage à la fête. Ces gens sont venus, ont eu quelque chose à voir avec la fête de l'UMA.
Il y a un attachement à cette fête de l'UMA.
Il y a un attachement parce qu'il est connu que c'est un lieu de culture et un lieu de fraternité et un lieu, au fond, où on se sent bien, on se sent à l'aise parce qu'on peut parler librement, dire son opinion et assister à une multitude d'activités.
Alors, il y a beaucoup de rencontres. J'imagine aussi qu'il y aura une pensée particulière pour Salah Hamouri et pour Marwan Barghouti, deux prisonniers qui sont actuellement en Israël. Auquel vous pensez?
Tout à fait. Il y aura une initiative importante autour des enfants palestiniens. Il y a un peu plus de 340 enfants palestiniens prisonniers aujourd'hui, autour des réfugiés palestiniens. Et pour les prisonniers politiques, Marwan Barghouti et Salah Hamouri, dont il faut dire qu'il est maintenant à un peu plus de 15 jours de sa libération potentielle, puisque sa troisième condamnation, elle doit prendre fin dans 15 jours. Et donc, il faut prendre des initiatives pour que le gouvernement français demande sa libération. Mais je veux aussi ajouter une petite note, qui est l'autre côté de la planète, c'est que nous allons dire quelque chose à propos de l'interdiction faite à Lula de se présenter alors qu'il est crédité de 39% dans les sondages au Brésil. Il y a là un déni de démocratie qui se prépare et on ne peut pas décemment laisser faire.
Un dernier mot très rapidement, Patrick Le Yarrick. Vous dirigez le journal L'Humanité. Pour ceux qui ne l'ont jamais lu, qu'est-ce que ça représente, L'Humanité, aujourd'hui? Pourquoi il faut le lire, selon vous?
L'Humanité, c'est le journal de l'ensemble du mouvement progressiste. C'est un journal qui porte le mouvement social, mais aussi le mouvement culturel. Il a des pages, il a un tiers du journal pour la culture, un tiers à peu près sur les enjeux sociaux. Il a bonne partie chaque jour sur les débats et bien plus le vendredi, puisqu'on consacre à peu près un tiers du journal à des débats pluralistes le week-end. Et évidemment, l'actualité politique, non pas au sens politicien, mais du point de vue du citoyen, du point de vue de l'intérêt de celles et ceux qui n'ont que leur travail ou leur retraite pour vivre. Donc, l'humanité, c'est ce journal qui porte ce nom et qui veut défricher chaque jour de nouveaux chemins d'humanité.
Merci Patrick Le Yarrick. Je rappelle que vous êtes député européen communiste, directeur de l'Humanité. Vous êtes venu à l'occasion de la fête de l'UMA qui se déroule donc les 14, 15 et 16 septembre. Bonsoir.
Bonsoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.